Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le multilatéralisme est-il de retour ? Trop tôt pour l'affirmer, mais la volonté états-unienne semble bien là sous l'impulsion de Joe Biden, bien décidé à mettre fin à l'hémorragie dans les organisations internationales au profit de Pékin et à restaurer une politique multilatérale rejetée par la précédente administration. Les dossiers sont nombreux, le climat, le nucléaire iranien et la refonte délicate de l'accord de Vienne signé en 2015 et dénoncé par l'administration Trump en 2018, le retour de Washington au sein de l'Organisation mondiale de la santé et l'apurement des arriérés financiers 2 milliards de dollars qui, année après année, grèvent les relations entre Washington et l'ONU. Mais un an après le début de la pandémie, l'urgence paraît d'abord sanitaire, tant la crise due au Covid-19 met à l'épreuve la solidarité internationale comme jamais auparavant. Pandémie, conflits sociétaux, terrorisme, changement climatique, crise économique, les défis sont multiples et la question se pose de savoir si les institutions actuellement en activité et les règles en vigueur sont en mesure d'y faire face. Le multilatéralisme mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est en voie d'érosion, largement responsable la politique unilatérale des États-Unis durant la présidence Trump, mais pas seulement. Pour cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre « Insécurité collective, la crise du multilatéralisme », nos invités par téléphone Laurence Burgorgue-Larsen, professeur de droit public à l'école de droit de la Sorbonne, directeur du Master 2 Droit de l'Homme et Union Européenne. Bonjour.
Bonjour.
Marie Roy, doctorante en relations internationales au centre Thucydide de l'Université Paris 2, spécialiste des questions de santé mondiale et notamment du rôle des épidémies dans la création du système sanitaire international. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous.
Et en studio, Serge Sûr, professeur émérite de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Bonjour.
Bonjour.
Serge Sûr, une définition pour commencer, de façon à poser les choses telles qu'elles doivent l'être. Définition du multilatéralisme ?
Alors écoutez, ce n'est pas le plus simple, parce qu'il y a plusieurs conceptions du multilatéralisme, mais celle que nous avons retenue dans le cadre de ce dossier, c'est une définition qui comporte trois éléments. Le multilatéralisme, ce sont des négociations qui sont ouvertes, très largement, ouvertes en principe à tous les États. Ce sont ensuite, comme résultat, des traités, des accords qui sont conclus entre le plus grand nombre d'États possible. Et ces traités, enfin, peuvent comporter la création d'institutions dont l'ONU est la matrice. Donc il y a une dimension à la fois normative, les traités, et institutionnelle. Ceci étant, il peut y avoir plusieurs conceptions du multilatéralisme, et certains considèrent que le multilatéralisme n'est pas simplement un universalisme, qu'il peut être aussi être un régionalisme. Nous, nous sommes concentrés sur les questions universelles, parce que c'est l'essence même du multilatéralisme que de s'ouvrir à tous les États, et de chercher à définir des normes qui soient acceptées par l'ensemble des membres de la communauté internationale.
Alors, déclin, crise du multilatéralisme, qu'est-ce qui le distingue aujourd'hui, Serge Sûr, et comment expliquer la situation ?
Je crois qu'il y a trois formes de ce déclin. Le terme est peut-être plus justifié d'ailleurs que celui de crise, parce que la crise, ça suppose qu'il y a un momentum et une sorte d'accélération, alors que nous avons un malaise dans le multilatéralisme qui dure depuis déjà peut-être une vingtaine d'années. La première forme, c'est qu'on ne négocie plus rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de négociation multilatérale. Il y a d'ailleurs également très peu de négociations régionales, voire bilatérales. La négociation a un peu disparu face à l'unilatéralisme. Une deuxième forme, c'est que un certain nombre de traités qui sont des traités canoniques, parce qu'il ne faut pas exagérer, il faut relativiser. Il y a un héritage du multilatéralisme qui reste très puissant. Mais un certain nombre de traités sont des traités malades. Mmh. Et je pense particulièrement au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, qui fourmille de contentieux divers. Mmh. Et dans ce sens, le multilatéralisme a toujours été un sport de combat. Mmh. C'est-à-dire que les pays qui sont unis par des règles, par des normes, par des institutions multilatérales, eh bien, ils ne se contentent pas de coopérer, ils sont également en compétition les uns avec les autres. Et le multilatéralisme définit un cadre compétitif autant qu'un cadre de coopération. Et puis, le troisième élément, c'est que les traités les plus récents, ceux qui ont été conclus au cours des 30 dernières années, il faut bien dire qu'ils sont des traités faibles. C'est le cas de la CPI,
qui
a créé une organisation qui ne dispose pas des moyens qui lui permettent d'exercer ses fonctions en réalité. C'est le cas de la Convention sur le climat, qui ne comporte pas de véritables engagements. Et c'est même le cas des conventions de droits humanitaires en matière de mines antipersonnelles ou en matière de bombes à fragmentation, où il n'y a pas de mesure de vérification, et dont les principaux producteurs de ces armes sont absents. Et donc, voilà quel est le malaise général du multilatéralisme. Il semble que ce soit une technique juridique à laquelle on ne fasse plus appel pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que la messe est dite. D'une part, il ne faut pas idéaliser le multilatéralisme. Il ne faut pas croire qu'il règle tous les problèmes, parce que, je l'ai dit, il reste un cadre compétitif entre les différents États. Et d'autre part, il y a toujours un socle, malgré tout, qui subsiste. Et si on veut faire aujourd'hui un tableau général du droit international, eh bien, on constatera qu'il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de grands traités multilatéraux qui continuent à s'appliquer d'une façon tranquille et qui constituent la colonne vertébrale même du droit international, dont la charte de l'ONU, mais aussi la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, ou encore le traité de 67 sur l'espace. Tout cela, ce sont des grands traités qui donne vraiment une consistance à la coopération internationale.
Alors, on reviendra bien sûr sur cette notion que vous évoquiez, la messe n'est pas dite. Alors, on l'a compris, il y a déclin ou malaise. Ce qu'on va faire avec nos invités aujourd'hui, c'est qu'on va se centrer sur la question des droits de l'homme et la question sanitaire, puisqu'on est toujours en plein dans la crise de la pandémie. Mais je voudrais rebondir sur la Cour pénale internationale. C'est vrai que l'un des derniers grands traités multilatéraux adoptés, le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale remonte à 1998. Laurence Bjørgaard-Larsen, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette Cour pénale internationale et de l'attitude peut-être aussi des États-Unis face à cette Cour ?
Oui, écoutez, le bilan est effectivement assez maigre. On sait que le statut de Rome qui a institué cette Cour a été chargé de juger des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et très peu de succès in fine devant ce prétoire pour une multitude de raisons. On a attaqué la Cour pénale internationale en considérant qu'elle était biaisée. Elle ne mettait en cause essentiellement que des Africains. Enfin, cette rhétorique des biais de la Cour pénale internationale est intervenue essentiellement, il faut le souligner, quand des présidents ou des ex-présidents ont été mis en cause. Au-delà des arrêts qu'elle a pu rendre qui sont décevants contre plusieurs personnalités, c'est effectivement le rapport de grandes puissances, et notamment les États-Unis, à l'égard de ce grand traité. Mais en la matière, rien de nouveau sous le soleil, parce que les États-Unis n'ont évidemment pas ratifié le statut. Et cette singularité du rapport des États-Unis au droit international n'est pas du tout nouvelle. C'est-à-dire que quand Frédéric Sudre présentait les grands axes du multilatéralisme, il pointait notamment l'aspect normatif, c'est-à-dire la conclusion du grand traité. Le rapport des États-Unis à la signature et à la ratification du grand traité, là en l'occurrence pour juger des criminels de guerre, mais aussi dans d'autres domaines pour protéger les droits de l'homme, a toujours été un rapport de défiance, pour ne pas dire d'opposition. Le rapport des États-Unis au droit international, qu'il s'agisse des administrations démocrates ou républicaines, est le même. C'est une extraordinaire défiance et une défiance qui se manifeste par la non-signature ou la non-ratification. Il est quand même incroyable de dire et de constater plutôt qu'aujourd'hui, la Convention sur les droits de l'enfant n'a pas été ratifiée par les États-Unis. Il est étonnant de constater que la Convention américaine des droits de l'homme, qui est l'équivalent sur le continent américain de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas été ratifiée par les États-Unis. Et que donc la protection juridictionnelle qu'elle déclenche sur tout le continent américain, avec une cour qui se trouve au Costa Rica, cette protection-là, les États-Unis n'en veulent pas. Donc, le rapport des États-Unis au droit international en général, à sa normativité, au traité qui en découle, est extrêmement défiant et ne changera pas. Et donc, du coup, pour revenir à votre question initiale, le bilan de la Cour pénale internationale, il est très compliqué à établir, il est faible parce que quand une grande puissance, qui jusqu'à l'ère Trump était considérée comme une grande puissance démocratique, n'entend pas accepter de jouer les règles du jeu de la poursuite des criminels de guerre et a tout fait pour entraver le fonctionnement de cette cour en empêchant certains États de ratifier le statut. Évidemment, ça ne peut pas donner, au-delà des aspects techniques qui sont complexes et qui peuvent entraver l'activité de la Cour, ça ne peut pas donner une bonne image du fonctionnement de cette juridiction.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors Serge, sur quelle lecture faire de cette attitude des États-Unis ? Vous le disiez, le multilatéralisme a besoin d'un leader. D'abord, quel type d'accord, de grand traité les États-Unis privilégient-ils par rapport à d'autres ? On a bien compris, et de ce que nous disait Laurence Burger-Larsen, c'est que finalement, les Américains privilégient leurs propres intérêts et quand ils voient leurs intérêts menacés, là, ils se retirent tout à fait. La nature ayant horreur du vide, ce sont des boulevards laissés aux Chinois ?
Écoutez, je crois que les États-Unis n'ont pas de position a priori. Pour eux, le multilatéralisme, c'est une boîte à outils. C'est un élément, un outil dans la boîte, comme l'unilatéralisme, comme le bilatéralisme, et ils l'utilisent d'une façon purement opportuniste. Lorsqu'ils sont en position de domination, lorsqu'ils peuvent exercer un leadership, eh bien, ils acceptent les traités multilatéraux, et on l'a vu d'ailleurs avec la charte de l'ONU et les institutions spécialisées, où ils ont très longtemps joué un rôle dominant. Et puis, lorsque ça ne leur convient plus, éventuellement, ils s'en retirent. Mais l'unilatéralisme, il n'est pas nouveau aux États-Unis. Il remonte à 1971, lorsque le président Nixon s'est retiré des accords de Bretton Woods, lorsqu'il a rompu la parité entre le dollar et l'or, la convertibilité du dollar en or. Et là, il a détruit le système de Bretton Woods, il a détruit le système monétaire international, jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là, on a vu que les États-Unis pratiquaient de temps à autre l'universalisme, de temps à autre l'unilatéralisme en fonction de leurs intérêts. Et il me semble que beaucoup d'États font la même chose en réalité. Vous savez, c'est le problème de l'avantage absolu et de l'avantage relatif. Les États s'engagent dans un traité s'ils considèrent qu'ils en tirent un avantage. La question est de savoir, est-ce qu'on exige que cet avantage soit égal pour tous ou qu'il soit simplement positif. Il se peut que dans certains cas, certains États soient avantagés. C'est par exemple le cas du TNP, qui reconnaît le privilège de 5 membres dotés d'armes nucléaires. Les autres ne sont pas dotés, ils renoncent à être dotés. On pourrait dire, voilà un traité qui est inégalitaire.
Ou ils sont dotés, je pense à l'Inde et le Pakistan.
Mais ils sont hors TNP. Mais dans le cadre d'une TNP, ils ne peuvent pas être dotés. Mais malgré tout, tout le monde en retire un avantage, même s'il n'est pas le même. C'est un traité asymétrique plus qu'inégalitaire. Tout le monde en retire un avantage parce que c'est une garantie pour les pays, pour les puissances non nucléaires, que leurs voisins ne deviendront pas nucléaires. Et en même temps, on leur apporte des garanties positives, c'est-à-dire qu'on s'engage à leur porter assistance s'ils font l'objet d'une menace nucléaire. Donc, ils en tirent un avantage également. Et dans ces conditions, on comprend que même s'il y a un leadership, même s'il y a des États qui gagnent plus que d'autres dans une certaine mesure, ou qui voient reconnaître leur position particulière dans l'ordre international, eh bien, les autres États acceptent de suivre. Alors, les États-Unis ont une politique assez particulière parce qu'ils sont toujours dedans et dehors. Ils sont à la fois dehors, mais ils veulent être dedans. Et l'exemple de la CPI est très intéressant. La CPI vient de décider d'enquêter sur l'affaire palestinienne. Les États-Unis protestent. Mais en quoi ça les regarde ? Ils ne sont pas partis au statut de Rome. Il n'empêche qu'ils estiment qu'ils ont leur mot à dire. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres situations. C'est le cas aussi pour la Convention de Montego Bay. Ils ne sont pas partis à la Convention sur le droit de la mer, mais ils estiment qu'ils ont leur mot à dire sur tout ce qui concerne le droit de la mer.
Alors, sur la question palestinienne, on sait par ailleurs les liens qui lient les États-Unis et Israël. Alors, pour ce qui est, on va poursuivre sur l'attitude des États-Unis. Je me tourne vers vous, Marie Roy, avec la question sanitaire, la question de la pandémie. On a vu en avril dernier, en plein début de la crise sanitaire, Washington décider de suspendre le versement de sa contribution, soit 22% du budget de l'organisation pour la période 2020-2021. On sait pourtant que l'Organisation mondiale de la santé fournit des services essentiels. Alors, sur fond de cette décision, il y avait un directeur éthiopien de l'Organisation mondiale de la santé, soutenu par la Chine, même soupçonné d'être soumis à la Chine. Il était question de la responsabilité de la pandémie. Un commentaire ?
Oui, absolument. Je rebondis tout à fait sur ce qui a été dit par le professeur Serge Sure précédemment, c'est-à-dire que les États-Unis pratiquent le multilatéralisme en fonction de leurs intérêts ou de ce qu'ils croient être leurs intérêts. Et ça a été notamment le cas avec la suspension du financement américain à l'OMS décidé par le président Trump l'année dernière, juste au début de la pandémie, qui en fait la mise en la théâtralisation, disons, de ce qui arrivait depuis plusieurs années, qui était le face-à-face entre la Chine et les États-Unis sur la scène internationale. Donc effectivement, ça s'est mis en œuvre sur plusieurs points, qui ont été la déclaration jugée tardive par l'administration Trump de la déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19, et par exemple sur la promotion de la transparence des autorités chinoises, notamment via des tweets du directeur général de l'OMS, donc le docteur Tedros que vous avez évoqué, qui effectivement est éthiopien et dont l'élection en 2017 a été soutenue par les autorités chinoises. Bon, le fait est que finalement, avec le changement d'administration américain en fin d'année 2020, les États-Unis ne sont pas réellement partie de l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'était donc pas un départ stricto sensu, puisqu'en fait, le retrait devait être acté à la prochaine Assemblée mondiale de la santé. On a senti un vrai soulagement le 21 janvier, donc le lendemain de l'investiture de Joe Biden, lorsque, pendant le conseil exécutif de l'OMS, Anthony Fauci a annoncé que les États-Unis ne se retiraient donc pas de l'OMS, que leur contribution restait la même qu'elle était précédemment, donc 22%, et qu'il s'impliquerait davantage dans les discussions sur l'amélioration de la sécurité sanitaire au niveau international.
Serge, sur un commentaire sur l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'OMS dans cette crise.
Écoutez, on voit bien qu'il y a un changement assez profond entre l'administration Trump et l'administration Biden sur ce plan. Mais ce changement, il est dû à l'attitude à l'égard de la Chine. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui commence à représenter l'obsession commune, d'ailleurs, à l'administration Trump et à celle de Joe Biden, des États-Unis. Et dans un premier temps, les États-Unis ont considéré qu'il fallait mieux prendre leur distance et puis se sont rendus compte que cette prise de distance laissait le terrain libre à la Chine, qui a marqué des points importants dans les organisations multilatérales. Et donc, on voit bien que les États-Unis se préparent à rentrer et à occuper leur place. Il est certain que si les États-Unis abandonnent ce terrain, eh bien, ils le laissent à d'autres et la Chine est toute prête à s'en emparer.
Alors, laisser la place à d'autres. Laurence Burgorg-Larsen, la question des droits de l'homme, elle est amplement remise en cause depuis, disons, deux décennies. Ce qu'on constate, c'est que l'universalisme des droits de l'homme est abîmé, âprement rejeté. 1998 a marqué le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que s'est-il passé depuis ?
Merci pour cette question. Malheureusement, une suite de défiance de la part de multiples acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs qui se situent en Occident comme hors de l'Occident, et c'est ce qui est assez justement préoccupant. Alors qu'un discours anti-universaliste se développe hors l'Occident, en Asie, dans le monde arabo-musulman, dans le champ de Russes, je dirais que c'est sans doute peu étonnant, mais en même temps c'est très préoccupant. Alors ce discours anti-universaliste est relié dans le monde en dehors de l'Occident par une matrice commune extrêmement préoccupante où la religion fédère cet anti-universalisme. La religion, les valeurs morales qui dérivent de la religion et qui sont reliées à une identité, sont mises en avant, alors, par le monde arabo-musulman, par l'adoption d'une déclaration en 90 sur les droits de l'homme en islam, où c'est la charia et l'umma islamique qui doivent l'emporter sur les droits individuels, mais aussi dans le domaine et dans l'univers de la religion orthodoxe russe. Donc ces contre-discours sont très préoccupants et valorisent l'identité, une identité qui passe par la religion, quelle qu'elle soit, on l'a compris. Mais alors, ce qui est beaucoup plus, tout aussi préoccupant pour l'avenir de cet universalisme des droits de l'homme, c'est que des discours qui attaquent les excès de l'individualisme, qui est le propre de l'universalisme des droits de l'homme, se développe aussi en Occident.
On poursuivra, si vous le permettez, Laurence Burger-Glarsen, oui, sur cette préoccupation quant au déclin et cette remise en cause des droits de l'homme dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec Serge Sûr et Marie Roy. À tout de suite.
Le coq chante, Sayou Batre, Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Laurence Burger-Glarsen, professeur de droit public à l'école de droit de la Sorbonne, directeur du Master 2, droit de l'homme et Union européenne, Marie Roy, doctorante en relations internationales au centre Thucydide de l'université Paris 2, spécialiste des questions de santé mondiale et notamment du rôle des épidémies dans la création du système sanitaire international, et Serge Sûr, professeur émérite de l'université Paris 2, Panthéon Assas, rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre « Insécurité collective, la crise du multilatéralisme ». Nous évoquions, Laurence Burger-Glarsen, dans la première partie de l'émission, cette question de la remise en cause des droits de l'homme depuis deux décennies. Finalement, ce n'est pas la première crise que traverse cet universalisme des droits de l'homme, mais c'est la plus préoccupante.
Oui, je pense véritablement, selon moi, que c'est la plus préoccupante. En effet, vous avez raison de souligner que le moment clé, le tournant 1948 avec l'adoption de la Déclaration universelle a ensuite engendré à intervalles réguliers des contestations, des discussions. Mais là, l'ampleur est importante. Elle est importante parce que, bon, comme je le soulignais juste précédemment, elle se déploie dans des univers non occidentaux qui, on l'a vu en première partie de l'émission, prennent de plus en plus d'importance dans le champ de la géopolitique. Et puis, elle se déploie aussi et surtout dans le champ occidental. Et ça, je pense que c'est profondément nouveau et préoccupant. Alors, dans le champ occidental, bon, les pays de l'Est, les pays d'Europe de l'Est sont l'emblème d'un rapport singulier à cet individualisme. Là encore, on retrouve la puissance de la religion, en l'occurrence la religion chrétienne, qui est valorisée comme un curseur de l'identité de la Hongrie, de la Pologne, de la Bulgarie, de la Slovénie, et qui considère que l'universalisme tel qu'il s'est développé à travers des multiples instruments, des traités et des cours de protection ou des comités qui ont eu en charge d'interpréter les droits ont été trop loin. Et l'analyse des droits tels qu'interprétés est considérée comme étant décadente. Et là, on renoue avec une rhétorique extrêmement dure contre les homosexuels, contre les migrants. Et donc, le libéralisme individuel poussé à l'extrême serait le ferment d'une décadence. Alors ça, c'est typique de l'approche des pays d'Europe de l'Est. Tout aussi préoccupant, alors qu'on était encore sous l'administration Trump, le secrétaire d'État Mike Pompeo a mis en place une commission qu'il a intitulée la Commission sur les droits inaliénables, composée de professeurs très renommés dans leurs disciplines, le droit, la science politique, les relations internationales, l'histoire des religions, mais tous, pour le dire clairement, très conservateurs. Et cette commission a eu en charge de penser la Déclaration universelle de 1948 dans le monde actuel. Et en réalité, quand on lit ce rapport, le rapport qu'elle a rendu, on est effrayé parce qu'il y a en règle une réécriture de la Déclaration de 1948 à l'aune des intérêts de la politique étrangère américaine, à l'aune aussi de l'histoire constitutionnelle américaine. Et en gros, la prolifération des droits telle qu'elle s'est répandue tout au long de ces années, elle est vilipendée. Trop de droits, selon le rapport, n'équivaut pas à plus de justice. La sélection est encouragée entre les droits. Vive la liberté d'expression, vive la liberté de religion. C'est ce que dit la Commission, typiquement en lien avec l'histoire constitutionnelle américaine. Mais hors de question de mettre en évidence trop promptement bien le droit à un procès stable ou encore les droits économiques et sociaux. Donc c'est assez terrifiant parce qu'on constate en fait l'établissement d'un axe qu'on pourrait qualifier conservateur transatlantique qui relie le rapport de cette commission avec la vision des pays d'Europe de l'Est. Et je serais très curieuse de voir comment l'administration Biden va prendre ou pas à la lettre le rapport de cette commission. Alors, donc ça serait intéressant d'analyser la suite.
et de voir effectivement ce qui peut se passer avec Joe Biden, Serge Sur, qui affirme depuis qu'il s'est installé à la Maison-Blanche que les droits de l'homme seront une priorité avec la Chine et la Russie après 4 ans d'isolationnisme américain. Il y a de quoi être optimiste d'après vous ?
Écoutez, je crois que ce que vient de dire Mme Bjørgaard-Larsen est très intéressant. En effet, les États-Unis ont une conception américaine des droits de l'homme. N'oublions pas que la Déclaration universelle de 1948 n'est pas juridiquement obligatoire. C'est une résolution de l'Assemblée générale, mais les États-Unis l'ont incorporée dans leur droit interne et la considèrent comme une norme obligatoire pour ce qui est du droit interne. C'est une norme américaine. Et au fond, elle tient un petit peu lieu de déclaration des droits américaine. C'est pas le cas en France, où elle n'a pas d'autorité juridique. Quant aux divergences qui existent entre la conception américaine et la conception européenne, elles sont extrêmement profondes. Elles sont extrêmement profondes déjà sur la technique de protection des droits de l'homme. Pour les pays européens en général, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire un mécanisme international qui passe par la Cour européenne des droits de l'homme. Les États-Unis refusent totalement ce type de protection. La protection vient du droit américain et des juridictions américaines uniquement. Et sur le fond, il y a des différences importantes. Il y a le problème de la liberté d'expression, de la liberté religieuse, comme vient de le rappeler Mme Bjørgaard-Larsen. Il y a aussi la question de la peine de mort qui existe aux États-Unis et qui est considérée comme contraire aux droits de l'homme en Europe. Il y a aussi la question du droit de porter des armes, qui est un droit fondamental aux États-Unis et qui est récusé généralement en Europe. C'est les différences les plus marquantes. Mais on voit bien que des pays qui se réclament authentiquement les droits de l'homme, il ne s'agit pas de dire il y a de bons et de mauvais. Simplement, c'est des cultures différentes, c'est des histoires différentes, et sous la même étiquette droits de l'homme, on peut avoir des contenus très différents. Et c'est le cas notamment, non seulement pour les pays qui rejettent au fond les droits de l'homme, lorsqu'on nous dit que les droits de l'homme sont subordonnés à la charia, il est évident que c'est une manière de rejeter les droits de l'homme, mais pour les pays qui se réclament des droits de l'homme, il peut y avoir des conceptions profondément différentes, et c'est le cas même d'ailleurs entre les pays qui relèvent tous de la Convention européenne des droits de l'homme. Les exemples qu'a donné Mme Bjørgaard-Larsen sont très parlants sur les pays d'Europe de l'Est.
Bon, après ça, je voudrais qu'on parle du sanitaire, de l'Organisation mondiale de la santé, de ce qu'a révélé la crise de la Covid-19 sur ces questions de santé. Mais on reste sur la question des droits de l'homme. Laurence Bjørgaard-Larsen, tout de même, sur ce dossier qui vient. Est-ce que on peut voir précisément Washington aujourd'hui réactiver cette pression droits de l'homme sur la Chine, sur la Russie, le dissident Navalny qui est en prison, la Chine, il y a la question des Ouïghours, et ce projet de Joe Biden aujourd'hui d'exhorter les nations démocratiques à s'unir pour défendre leurs valeurs face au régime autocratique, est-ce que tout cela a des chances d'aboutir ?
Alors, tout à l'heure, le professeur Sur mettait très bien en évidence la question des Américains qui sont à la fois dehors et dedans et qui utilisent le multilatéralisme comme une boîte à outils. Et ben là, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie et encore plus la Chine sont vraiment les ennemis déclarés des États-Unis. Et dès que la rhétorique sur la protection des droits de l'homme va pouvoir servir leurs intérêts, évidemment, les États-Unis vont le faire. Mais inutile de dire que ça ne changera absolument rien le rapport à la normativité qui découle de la protection des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont ratifier des traités de protection des droits de l'homme qui auraient pour objet notamment de protéger leurs citoyens grâce à un système international. Donc, bien évidemment, ils vont utiliser là un discours, celui des droits de l'homme, pour faire valoir leurs intérêts et s'opposer très clairement. Et d'ailleurs, c'était très évident aussi dans le rapport de la commission Mike Pompeo, la Chine apparaissait comme l'ennemi numéro un, donc ça ne va pas changer avec Joe Biden, et la situation notamment à Hong Kong était très très préoccupante. Ça sera régulièrement mis en avant, ça sera un outil comme un autre de la rhétorique, mais aussi des mécanismes de sanctions qui vont être mis en évidence. Ils vont de faire les porte-étendards d'une approche du droit international qui doit être conforme à des principes démocratiques et donc à la protection des droits de l'homme. Mais ça ne va servir que leurs intérêts et ça ne changera rien à leur rapport au traité de protection des droits de l'homme qui, eux, continueront à ne pas être signés et ratifiés par les États-Unis. C'est là où est le paradoxe. Et c'est ce qui est très problématique parce que ce discours est vu par une partie du reste du monde comme un discours à géométrie variable. Et des notes pour beaucoup de pays non occidentaux une politique à double vitesse, qui est insupportable et qui, en retour, alimente le rejet de l'universalisme des droits de l'homme. Donc c'est assez préoccupant.
Effectivement, inquiétant. Je ne vous demande pas de réagir, Serge Sûr, parce qu'on n'a pas le temps de poursuivre sur la question des droits de l'homme. Dieu sait qu'il y aurait évidemment beaucoup de choses encore à dire. On va parler du multilatéralisme sanitaire avec vous, Marie Roy. Qu'est-ce que l'on peut dire finalement de ce qu'a révélé la pandémie quant au système sanitaire international? Est-ce qu'elle sonne le glas du multilatéralisme en matière de santé? Est-ce qu'elle a, la pandémie, rapproché ou au contraire accru les divergences entre États? Marie Roy.
Alors moi, je serais plutôt optimiste, je dois dire, même si la crise Covid a montré que l'approche multilatérale a été remise en question. Donc on a déjà parlé des stratégies de démantèlement que Mme Birger-Larsen évoque par exemple dans son article entre la Chine et les États-Unis, avec l'instrumentalisation du multilatéralisme par la Chine pour modifier les rapports de force au sein de l'OMS, par exemple, ou encore le contournement du multilatéralisme par l'administration Trump en voulant sortir de l'OMS. En réalité, la santé, c'est quand même le secteur où s'incarne le mieux le multilatéralisme depuis le milieu du 19e siècle. Pour reprendre, par exemple, la définition du multilatéralisme donnée par le professeur Sûr au début d'émission, avec des négociations ouvertes largement, par exemple, à l'Organisation mondiale de la santé, il y a 194 États membres. C'est beaucoup plus que dans la plupart des agences onusiennes. Il y a eu une succession de traités d'accords internationaux sur les sujets de santé depuis 1951. Et c'est un secteur particulièrement institutionnalisé avec non seulement l'Organisation mondiale de la santé, mais également de nouveaux fonds qui ont été créés dans les années 2000. Par exemple, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou encore UNITED, qui est une organisation chargée de permettre le développement et l'accès équitable aux innovations en santé. Donc en fait, je serais plutôt optimiste sur le fait que la crise du Covid a permis une relance du multilatéralisme sanitaire, avec la création aussi de l'Access to COVID Tools Accelerator, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est destiné à faciliter justement le développement, la production et l'accès équitable aux diagnostics, traitements, vaccins, enfin tous les produits destinés à lutter contre le Covid et à renforcer les systèmes de santé dans les pays les plus vulnérables. Donc c'est quand même doté de près de 30 milliards de dollars et c'est un outil extrêmement important pour permettre l'accès de tous aux vaccins.
Alors, Serge Sûr, commentaire sur cette relance du multilatéralisme au bénéfice de la pandémie. On assiste tout de même à une rivalité entre États particulièrement exacerbée depuis un an. Alors, beaucoup de communication peut-être pour des résultats qui se concrétisent de manière un peu différente. Et puis, cette question des vaccins, pénurie, pas pénurie, en tout cas, la question de la couverture vaccinale qui doit être un bien public mondial accessible à tous, à un prix abordable, se pose aujourd'hui.
Écoutez, c'est un objectif plus qu'une réalité. Mais ce qui est vrai, Marie Roy a tout à fait raison de le rappeler, c'est que c'est vraiment le domaine où la solidarité peut s'exercer le plus, puisqu'il y a évidemment un intérêt commun, indiscutable, à ce qu'on lutte de façon collective contre les pandémies qui menacent tout le monde dans des conditions d'égalité. Simplement, ça ne fait pas disparaître la compétition entre États, notamment pour la production des vaccins. Et on voit bien que, par exemple, l'Europe a été malheureusement en retard dans cette affaire, et tout particulièrement la France, dont on attendait qu'elle fournisse assez rapidement un vaccin, et puis ça n'a pas fonctionné. Et donc, on voit bien que l'inégalité, malgré tout, se réintroduit. Elle se réintroduit à la fois entre puissances développées, entre pays développés, et à l'égard des pays en développement, qui sont évidemment sacrifiés dans cette affaire, alors qu'ils sont également victimes et propagateurs de cette maladie. L'idée des vaccins comme bien commun, c'est une idée tout à fait généreuse, dont la réalisation est souhaitable, mais les intérêts économiques, semble-t-il, prévaudront. Alors bien sûr, les intérêts économiques sont les intérêts privés avant tout, mais les États sont bien sûr présents. Et on voit bien, par exemple, autour du vaccin chinois ou du vaccin russe, qu'il y a toute une série de considérations qui sont d'ordre géopolitique ou idéologique et pas simplement d'ordre sanitaire. Malheureusement, le domaine sanitaire ne peut pas être isolé des questions politiques générales. Et on peut dire que ces questions politiques générales viennent perturber la solidarité qui devrait exister sur un sujet comme celui-là.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
En tout cas, Laurence Birger-Larsen, cette question des vaccins, la couverture vaccinale, bien public, c'est aussi une question liée aux droits de l'homme.
Oui, tout à fait. Et cette idée de bien public mondial, c'est un impératif à la fois de bon sens, c'est aussi un impératif éthique. Mais comme l'a souligné le professeur Sûr, je pense qu'il ne faut pas déconnecter cette idée généreuse, je dirais même cet idéal, cet objectif, du contexte géopolitique actuel. La réelle politique a très très vite pris le dessus sur le début de la concertation pour trouver un vaccin. Et ça serait en réalité, et là je rejoins ce qu'a dit aussi Marie Roy, ça serait le moment de refonder entièrement le multilatéralisme. Et il y a des manifestations de solidarité, mais elles ne vont pas forcément perdurer énormément. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rêve d'un multilatéralisme mis en réseau, d'un multilatéralisme plus inclusif, où d'autres acteurs seraient pris en compte, notamment les acteurs du monde des affaires, mais aussi les universités, les philanthropes. Alors, ça s'est manifesté, comme l'a dit Marie Roy. Il y a des philanthropes, il y a des experts indépendants qui ont travaillé en réseau. Et malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Et si on regarde un petit peu l'histoire, quand on a à chaque fois essayé, notamment quand ce souhait venait des pays du Sud, d'utiliser une crise pour refondre le multilatéralisme, le refonder, ça n'a pas marché. Je pense au nouvel ordre économique international des années 70, qui était promu par des très grands et brillants intellectuels, je pense à Mohamed Bejaoui ou encore à Akeba Mbaye, qui rêvait de nouveaux rapports économiques entre les pays du Sud et les pays du Nord, ça n'a pas eu lieu. Alors là, cette crise sanitaire serait l'occasion de créer ce multilatéralisme plus mis en réseau, où les organisations internationales régionales seraient plus actives, où les acteurs du monde privé seraient inclus. Mais le contexte malheureusement global que nous avons décrit tout au long de cette émission n'est pas favorable. Alors je pense qu'il y a des avancées. La discussion, ne serait-ce que la discussion sur le bien public mondial est nécessaire. Elle fait bouger des lignes. Elle va permettre certaines avancées, mais elle ne va pas tout pouvoir entièrement transformer les grands curseurs des rapports entre États qui sont effectivement marqués par une compétition débridée.
Marie Roy, je vous propose un commentaire sur ce qui a été dit par Laurence Burger-Larsen et Serge Sûr, peut-être.
Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, pour l'idée du vaccin comme bien public mondial, en fait, il y a déjà deux aspects techniques qui bloquent de toute façon pour y parvenir. C'est déjà qu'il y a un véritable enjeu de propriété intellectuelle, c'est-à-dire comment on oblige les industriels à donner libre accès à leurs brevets ou leurs licences, alors qu'ils ont financé en partie la recherche et le développement, avec les États bien sûr, mais en partie malgré tout, et qu'on a aussi besoin d'eux pour continuer les recherches sur les traitements et les vaccins. Donc voilà, il y a une véritable volonté de pas non plus complètement écarter l'industrie pharmaceutique du jeu. Et dans le même temps, il y a des flexibilités qui sont possibles dans les accords de propriété intellectuelle à l'OMC, qui ne sont pas mises en place justement pour ne pas vexer, disons, l'industrie pharmaceutique. Et donc d'un autre côté, il y a aussi le problème du développement des capacités de production locales, qui sont donc très difficiles dans les pays du Sud, puisque effectivement, enfin, même dans les pays génériqueurs, par exemple comme l'Inde, fabriquer un vaccin, c'est pas comme fabriquer du paracétamol ou de l'ibuprofène. Donc voilà, c'est les deux vraies barrières à la possibilité d'avoir des vaccins contre le Covid, vu comme des biens publics mondiaux.
En guise de conclusion, Serge Sûr, l'unilatéralisme, c'est quelque chose de plutôt contagieux ces derniers temps.
Oui, tout à fait, c'est contagieux.
Est-ce qu'on peut dire que le multilatéralisme aura bien du mal à être relancé ?
Écoutez, tout dépend des thèmes, tout dépend des sujets, tout dépend des politiques suivies par les États. On a connu un cycle où il était en voie d'affaiblissement, mais il est très possible que d'ici quelques décennies, voire quelques années, le multilatéralisme revienne. Mais je voudrais faire une dernière observation sur le rôle des sociétés civiles, parce que la question qui a été soulevée est celle du rôle des sociétés civiles dans le multilatéralisme. Il y a eu une période où ces sociétés civiles sont vraiment intervenues, à l'époque de la CPI, à l'époque du traité sur les mines antipersonnelles, ou sur les bombes à fragmentation, ou même sur l'environnement, sur le climat. On a vu que les résultats étaient très modestes. Et donc, il y a un certain désenchantement à l'égard de l'implication de la société civile dans le multilatéralisme. Et je ne pense pas que ce soit la dynamique qui puisse le relancer.
Merci Serge Sûr. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre Insécurité collective, la crise du multilatéralisme. Merci aussi à Laurence Burger-Larsen, professeur de droit public à l'École de droit de la Sorbonne, directeur du Master 2 Droit de l'Homme et Union Européenne, et Marie Roy, doctorante en relations internationales au Centre Thucydide de l'Université Paris 2, spécialiste des questions de santé mondiale mondiale et notamment du rôle des épidémies dans la création du système sanitaire international. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons droits des femmes à la veille du 8 mars. À demain.